Vous écoutez RTL. 7h-9h30, RTL Matin.
Avec Jérôme Chapuis.
Bonjour Stéphane Buy.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous ce matin en direct et de livrer votre récit pour la première fois aux auditeurs de RTL. Vous êtes pilote d'hélicoptère. Nous découvrons votre voix, votre visage aussi. On a beaucoup parlé de vous depuis dimanche dernier, depuis cette évasion spectaculaire de Redouane Faïd dimanche. C'est vous qui avez été pris en otage par le commando de Redouane Faïd et de ses complices. On va revenir dans le détail évidemment sur ce récit. D'abord, avant toute chose, comment allez-vous ?
Je crois que j'allais bien jusqu'à hier soir, puisqu'on m'avait déjà prévenu la cellule psychologique, le médecin de Gonesse, qui m'ont d'ailleurs très bien accueilli, c'était formidable, mais je me rendais pas compte et j'étais peut-être sous le choc, mais dans la tension. Je n'avais pas de réaction, si vous voulez, tremblante, que j'avais l'impression que on m'avait prévenu que 2-3 jours après, le choc serait psychologiquement peut-être dur à passer et qu'il fallait absolument contacter une cellule psychologique de suivi, comme les drames de...
Comme
et
toujours en
j'ai l'impression qu'effectivement, ce matin, le stress est beaucoup plus fort qu'hier et avant-hier.
Alors vous allez nous raconter, peut-être en commençant par le début, dimanche matin, beau temps, vous êtes, vous, sur le point de décoller avec votre hélicoptère. C'est une journée normale qui commençait.
Oui, tout à fait, parce que j'ai l'habitude, le samedi, le dimanche, d'accueillir des vols pour mes élèves, puisque j'ai une école... ATO qui donc fonctionne avec donc des inscrits. Et puis nous avons aussi des vols d'initiation, quelquefois sur demande, des gens qui sont intéressés pour voler sur hélicoptère. J'en fais même une petite fierté, puisque j'arrive à faire piloter des gens qui n'ont, des néophytes qui n'ont jamais piloté, au bout de quelques minutes, leur faire comprendre les rudiments de l'écho.
Et ce commando, les membres de ce commando avaient réservé un vol d'initiation ?
Oui, tout à fait.
Avec vous ?
Oui.
Avec vous précisément ?
Exactement.
Ça signifie que vous avez la conviction d'avoir été choisi, qu'ils ne vous ont pas choisi par hasard ?
Par rétrospective, je pense qu'ils ont dû bien se renseigner sur la manière dont je pilotais. Je suis instructeur, j'ai 3000 heures de vol, je mets un point d'honneur à former des élèves au top niveau, comment dire, de former des élèves assez safe, et voilà, c'est un peu la rançon de ça.
Vous pensez avoir été donc repéré, combien étaient-ils ?
Deux.
Ils n'étaient que deux ?
Oui, monsieur.
Parce qu'on a entendu tous les chiffres, ils n'étaient que deux.
Oui,
ils étaient cagoulés ?
Non, puisque de toute façon, ils avaient déjà fait un vol antérieurement et qui s'était très bien passé sur un baptême. Quoi.
Vous les connaissiez ?
Oui.
Vous les avez reconnus ?
Oui, bien sûr. C'était presque la deuxième ou la troisième fois, je les voyais. Donc c'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils et qui venait pour la deuxième fois faire un baptême, et voilà.
Un père et son fils,
oui.
Quels âges vous leur donneriez ?
Bah, de cinquantaine, et puis le fils, vingt et quelques années, quoi.
Ce sont des gens donc, que vous connaissiez, avec qui vous aviez eu l'occasion de converser ?
Bien sûr.
De quoi parliez-vous avec eux ?
Bah, d'hélicoptère, de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait voir, survoler, etc. Donc, pour moi, c'était un baptême comme un autre, et vanter un peu l'hélicoptère, puisque c'est ma passion. Donc
Et dimanche matin, à partir de quand, tout bascule ?
Tout bascule quand ils sont arrivés. J'étais seul dans le hangar et je n'avais aucun... D'habitude, j'ai toujours mon président qui est là quand c'est la semaine. Mais là, le samedi, c'est moi qui ouvre. Je referme derrière eux. Ils arrivent à peu près à l'heure. C'était 9h30, le rendez-vous. Et donc, je referme le rideau. On a un rideau de fer que je referme complètement. Que je ne ferme pas à clé parce que je sais qu'un élève va arriver à 10h30. Donc pour moi, je sais qu'il a l'habitude donc de soulever ce rideau pour préparer la machine ou m'attendre en fait si la machine n'est pas là. Et je me dirige vers le R44 Robinson 4 places pour le sortir. Et là, il me demande, mais on préférerait faire un vol dans l'Alouette 2, qui était donc entreposé dans le même hangar.
Cet hélicoptère, on y reviendra. Hein,
le 5 places que vous connaissez, voilà.
Qui est si particulier. Décrivez-nous ensuite à quel moment ils vous disent de vous diriger vers cette prison de Réau.
Alors, c'est beaucoup plus tard, puisque là, pour l'instant, je dis non, je peux pas prendre cette machine, elle est pas dédiée à cela, puisque c'est une machine qui était ici en prêt, et donc, en plus, elle n'avait pas assez de carburant pour faire un baptême. Donc, je leur dis non. Je préfère faire votre baptême sur la machine que vous avez déjà pris. Et là, tout bascule. Quoi. C'est-à-dire que là, il m'agresse et il me condamne à prendre cette machine. Je leur dis oui, mais alors on peut pas décoller avec si peu de carburant. Ben tu vas faire du carburant et vite. Et maintenant c'est là qu'ils m'ont agressé, qu'ils m'ont dit bon maintenant ça suffit,
ils ont des armes, ils vous frappent?
Pas encore, non.
Ça viendra plus tard.
Ouais, c'est que verbal en fait. Ils m'ont contraint et prévenu que ma famille est en danger, quoi.
Ah, et c'est à ce moment-là, et on entend évidemment dans votre voix, on entend votre émotion, on comprend évidemment, c'est à ce moment-là que vous comprenez qu'ils vous connaissent, que vous êtes identifié et que vous avez affaire à des professionnels.
Voilà, des gentils qui deviennent complètement très méchants et qui me menacent, quoi. Voilà, donc tu vas sortir la lorette, on va faire le carburant, et voilà. Et donc je m'exécute, je sors la machine, je vais faire le carburant. J'en étais un petit peu tellement émotionné que je trouvais pas la carte totale pour le faire. J'appelle une voisine qui est dédiée pour faire le carburant, si en cas de, pour les étrangers ou pour ceux qui n'ont pas de carte totale. Et puis, elle me fait le carburant et j'en ai même oublié de faire sortir les deux passagers, puisque logiquement, la réglementation que je fais habituellement, c'est de faire sortir les passagers pendant le refueling. Et donc là, je l'ai oublié, et il y en a un qui est resté dans la machine.
Vous décollez?
Nous décollons avec le contrôle. Ils me disent de faire un vol habituel, donc pour pas certainement affoler le contrôle. Et je décolle dans le sud-est.
Avec une direction précise?
Oui.
Quelles sont les instructions
pour l'instant, il n'y avait aucune instruction. Je décolle et ensuite, ils m'ont fait poser dans un champ sous prétexte d'avoir envie d'uriner.
Première halte, donc. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Mais à ce moment-là, je descends. Ils me font descendre de l'hélicoptère. Ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire et leur choix d'aller... aller chercher un ami à la prison de Réau. Et ils m'expliquent... qu'il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail, sinon ma famille serait certainement
menacée
et que quelqu'un était devant chez moi.
Que quelqu'un était devant chez vous, c'est le langage qu'ils vous tiennent. À ce moment-là, ils sont toujours deux, ils restent deux, toujours dans l'hélicoptère.
Oui, tout à fait.
Voilà, vous redécollez.
Alors là, j'étais effectivement un peu plus, on va dire, violenté avec des coups de crosse pendant les explications qui... Je trouvais un peu injuste, puisque il n'y a pas besoin de coup de crosse dans la tête pour savoir écouter quelqu'un.
Parce que vous n'opposez aucune résistance.
Et j'avais pas le choix avec deux coltes sur la tête.
Mmh. Vous redécollez, et donc quelques minutes plus tard, vous êtes...
Quelques minutes plus tard, je ne savais pas quel cap... je n'avais même pas le droit de prendre mon téléphone pour utiliser un GPS. Il m'avait confisqué à ce moment-là mon téléphone. Et j'allais... a priori, là où il voulait que je me dirige.
Ça signifie que vous arrivez donc quelques minutes plus tard au-dessus de la prison de Réau, lorsque vous découvrez prison.
Non, je n'arrive pas tout de suite sur Réau. Ils me font découvrir un terrain vague dans lequel je dois encore à nouveau me poser.
À nouveau vous poser, d'accord.
Oui. Ouais. Et là, je ne connais pas du tout les lieux.
Pour quelle raison s'arrête-t-il comme ça?
Je ne savais pas.
Vous ne le savez pas. Racontez-nous donc ce moment où vous arrivez au-dessus de la prison.
Alors, je ne suis pas encore au-dessus de la prison, je pose dans un champ, et là, il me demande de couper la turbine et de mettre la tête sur le manche pour ne pas voir arriver un commando.
Pour ne pas voir arriver un commando.
Oui, pour pas que j'ai... Et donc j'étais contraint toujours avec ce colt sur la tête, et quelques d'être sur le la tête sur le manche, tête baissée si vous voulez, pour pas voir l'extérieur.
Pour ne pas voir, c'est-à-dire que vous pilotez?
Oui, dans une clairière.
Vous êtes dans une clairière, vous pilotez sans avoir la possibilité.
Non, je suis posé là.
Ah, vous êtes posé là, d'accord. Vous
êtes posé
là.
Je coupe le moteur.
D'accord. À ce moment-là, arrivent d'autres membres du commando.
Et là, j'entends effectivement que tout se charge dans la machine d'autres individus. Ça s'approche et charge des sacs, je ne sais pas, je ne vois pas.
Et là, vous ne savez pas combien ils sont.
Je devine au bruit de ce qui se passe à l'arrière de la cabine.
Et à ce moment-là, vous avez pu identifier, ce sont des hommes qui sont là encore à visage découvert, vous les avez vus, vous les avez comptés?
Non, alors là, j'ai aperçu, parce que bien sûr, après la machine n'a pas démarré, c'est là que ça a été le cauchemar.
La machine ne démarre pas, l'hélicoptère ne démarre pas.
Il faut savoir qu'une machine qui date des années 60, et c'est une excellente machine, très fiable, etc. Le petit souci, c'est que quelquefois, il y a des blocages de démarreur. Vous avez une séquence qui se dérègle, on va dire, et vous avez un bloc démarreur qui s'allume rouge et vous pouvez pas mettre en route la turbine. Et là, ça a commencé vraiment à les énerver. Ils pensaient peut-être ils ont peut-être dû croire que je simulais une fausse panne.
Ils vous l'ont dit, ça?
Oui, oui. Alors là, j'ai reçu vraiment des coups de crosse de plus en plus forts. En me disant, démarre, démarre. Et cette machine, il voulait rien savoir. Il voulait que la machine démarre. Malheureusement, à chaque séquence, j'avais ce bouton rouge qui s'allumait et je ne pouvais pas démarrer.
Vous êtes frappé alors que vous n'y pouvez rien.
Je ne peux rien faire et à force, je m'énerve en leur disant, j'ai pas rien. De toute façon, elle démarre pas. J'y peux rien. C'est une séquence qui ne va pas. Et donc, je sors. Je leur propose de sortir pour essayer de régler le problème à l'extérieur, sur un boîtier électromécanique.
Ce que vous faites?
Ce que je fais. C'est là que j'aperçois des hommes complètement cagoulés, en combinaison de, vous savez, genre le RAID ou GIGN. Et là, fébrilement, j'ouvre le boîtier électromécanique et je commence à faire des essais, à réessayer. Ça démarre toujours pas, ça a duré très longtemps puisque j'ai essayé plusieurs solutions. Les pannes sont assez complexes. Et là, ils étaient de plus en plus méchants.
Il y a un moment où ça redémarre.
À un moment, j'ai pris un coup sur la tête, là. Et
votre tempe.
Oui, je suis tombé par terre.
Inconscient?
Inconscient pendant quelques secondes.
Vous relevez?
Ils m'ont relevé. Et là, ça a été terrible parce que j'étais impuissant devant cette machine que j'avais essayé de faire démarrer 5-6 fois. Et j'ai touché à un moment donné un relais qui, normalement, devait être en cause. J'ai réessayé de faire la séquence, de démarrer, et enfin la turbine a démarré.
Et à ce moment-là, donc décollage, j'imagine qu'ils sont très pressés.
Tout le monde est pressé, tout le monde embarque, on me remet au poste de pilotage à droite. Et donc, je suis contraint de décoller rapidement.
Vous arrivez donc, à ce moment-là, c'est le moment où vous arrivez à la prison de Réau, c'est ça?
Et c'est après que l'on dirige vers la prison.
Alors, la prison, cette cour d'honneur, d'abord décrivez-nous, c'est vaste, c'est une manœuvre compliquée?
Alors, c'est une dropping zone que je ne connais pas, évidemment, parce que je ne l'ai jamais pratiquée, mais j'arrive effectivement dans ce centre pénitentiaire où le point de repère, puisqu'on volait très... Il m'obligeait à voler très bas, pour éviter les radars, sans doute. Et on volait vraiment très bas, et à un moment donné, il ne retrouvait plus la prison. D'ailleurs, il a fallu remonter pour trouver ce site.
Il y en a un qui cherchait.
Moi, je ne savais pas trop où se trouver non plus, parce qu'on est dans les champs, en fait. Et donc, à un moment donné, ils ont retrouvé l'axe de la prison, et ils m'ont dit, tout droit, là, les murs sont rouges, et c'est par là qu'il faut aller. Et arrivé au-dessus de la prison, je suis arrivé, évidemment, assez vite, et là, on m'a dit de ralentir, et je ne savais pas où poser, donc, et je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Et on m'a indiqué de passer au-dessus de l'enceinte.
Et il savait. Et vous imaginez, vous, à ce moment-là, être en danger, éventuellement, puisque j'imagine une prison, il y a des miradors, il y a des gens qui surveillent?
Non, je me sens pas en danger du tout, parce que je suis tellement concentré sur mon vol que je me dis que, voilà, j'arrive là, il faut faire exécuter leurs ordres, quoi.
Vous posez l'hélicoptère dans la cour.
Je pose dans une cour, effectivement, qui était triangulaire. Et on me fait poser sur une petite allée en bitume qui doit faire 1,50 m de large, avec des fleurs, plein de fleurs.
Manœuvre périlleuse.
Va dire précise, mais bon, comme c'est un petit peu mon...
Votre métier, on précise évidemment que vous êtes un pilote aguerri, hein, vous nous l'avez dit.
Je suis un peu spécialisé dans les DZ exigus, dans les dropping zones exigus, donc forcément, j'inculque à mes élèves ce savoir-faire, donc il est évident que je sais faire.
Quelques longues minutes durant lesquelles les malfaiteurs vont chercher Redouane Faïd, et puis ils reviennent.
Alors ils me laissent quand même un commando, quelqu'un qui me menace toujours avec la crosse sur la tête. Et ils me font poser pour débarquer l'équipe. Et ensuite, il me fait redécoller d'1,50 m environ et me faire demi-tour dans l'enceinte.
À ce moment-là, vous savez qu'il s'agit de Redouane Faïd. Est-ce que
non,
c'est... Vous avez été en contact avec lui.
Après,
vous avez pu échanger avec Redouane Faïd.
Très peu. Non, il a été vraiment très silencieux.
Est-ce qu'il s'est identifié?
Pas du tout. Je ne savais pas qui j'avais affaire.
Vous l'avez appris après coup?
Oui, par la presse. Et par les services.
Est-ce que, cette atmosphère extrêmement tendue que vous nous décrivez, est-ce qu'elle se détend un tout petit peu une fois que vous redécollez?
Elle se redétend, bien sûr, après 10 minutes de stationnaire sans bouger, parce qu'on m'a obligé à rester en stationnaire sans bouger dans cette cour.
Et pour quelle raison?
Je ne sais pas, mais certainement pour peut-être me tenir... Et donc j'ai dû tenir, ça m'a paru une éternité de tenir un stationnaire à 3 cm près dans cette cour pour pas bouger. Et au bout de 10 bonnes minutes, mon angoisse était le niveau de carburant qui baissait.
Le niveau de carburant à ce moment-là
était très bas.
Et bas, et vous vous demandez si vous aurez l'occasion d'aller...
Je ne savais pas où est-ce qu'ils m'emmèneraient.
Racontez-nous ce moment, le moment du soulagement, puisqu'arrive ce moment où ils vont vous libérer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je me repose puisque le commando a terminé son travail. Et là, j'entends tout le monde qui monte à bord. Et quand la porte se referme, on me somme de décoller dans l'axe. Évidemment, j'avais fait demi-tour et je redécolle de l'enceinte de la prison. Et après, je ne savais pas où aller, donc je leur ai demandé. Et on m'a dirigé, on m'a dit, à un moment donné, un a dit, faut aller vers Logne. Ensuite, Logne, je voyais à peu près au cap, sans GPS, où se trouvait Logne. Et après, la destination, c'était à Roissy. Faut nous emmener à Roissy. Alors, j'ai dit Roissy, mais l'aéroport. Ouais. Non, on t'indiquera plus tard.
Et vous vous posez, ils vous libèrent, ils s'en vont sans autre contact.
Alors, je me retrouve évidemment très bas, arrivé à un moment donné, j'ai vu les pistes du Bourget que j'ai évité au dernier moment, et ils m'ont indiqué une allée près d'une station totale, donc, et c'était au bord d'une voie rapide, et là, il y avait encore un posé un peu délicat sur une toute petite allée entre les bosquets, les arbres.
Et, et puis vient le moment où vous vous retrouvez seul.
Et tout le monde descend, j'avais entendu parler, j'ai l'essence, il faut de l'essence, il faut de l'eau de Javel, enfin voilà, des mots comme ça. Et c'est là que j'ai compris qu'ils voulaient mettre le feu à Stalouette.
Alors il faut que vous nous parliez d'ailleurs, parce que c'est l'histoire dans l'histoire, en fait, c'est cet hélicoptère dont on parle depuis le début, c'est une pièce de collection.
C'est une pièce de collection, c'est la numéro 3, oui.
C'est-à-dire que c'est l'Alouette, aujourd'hui, l'un des plus vieux hélicoptères du monde.
Qui vole, oui, effectivement.
Ouais. Et c'est cet hélicoptère qu'ils ont choisi pour cette évasion spectaculaire, qui est aujourd'hui donc très endommagée. Hein.
Oui, ils ont tenté de mettre le feu dans la cabine.
J'ai une dernière question, Stéphane Buy. Vous êtes pilote, vous êtes instructeur. Quand allez-vous piloter à nouveau? Est-ce que vous souhaitez de nouveau prendre les commandes d'un hélicoptère?
Bien oui, j'avais déjà, ces jours-ci, un vol à faire sur le Mans, grâce à mon premier instructeur qui m'avait formé sur cette Alouette 2. C'était un instructeur privé. Et qui m'a demandé de faire un vol avec lui et son fils sur le Mans pour une course, voilà, que j'avais accepté à faire sur une Alouette 2. Malheureusement, j'en ai une Alouette 2 qui n'était pas dans le hangar à ce moment-là parce qu'elle était en révision. Et je pensais bien trouver une autre Alouette pour l'emmener et faire ce vol.
Donc vous allez faire ce vol, vous êtes bien décidé à voler à nouveau.
J'espère le faire, même si je ne trouve pas d'alouette, je vais quand même, des amis vont pouvoir m'en trouver une.
Est-ce que vous craignez aujourd'hui, ce matin encore, pour votre sécurité ?
On n'est jamais à l'abri.
Et pour celle de votre famille ?
Ben oui, voilà, donc je ne sais pas. On est toujours exposé, c'est sûr. Donc, voilà.
Et vous êtes sous protection, vous le savez, vous avez eu des échanges évidemment avec les policiers.
J'ai été sous protection au moment où je suis parti à l'hôpital de l'endroit où l'alouette a été posée. Et les pompiers m'ont emmené à l'hôpital de Gonesse, où d'ailleurs je profite de ce moment pour remercier tous les services, les pompiers qui ont été très, très charmants, et les services de l'hôpital, de nouvel hôpital de Gonesse. Le médecin des urgences, vraiment très sympathique et charmant. Je les en remercie.
Eh bien, nous vous remercions, nous aussi, et tous les auditeurs de RTL, évidemment, d'avoir réservé donc ce premier témoignage exceptionnel, hein, puisque ce récit est évidemment exceptionnel. Merci beaucoup, Stéphane Buis, d'avoir été avec nous en direct sur RTL. C'est un entretien que vous pouvez réécouter, que vous pouvez revoir aussi sur rtl.fr. Très bonne journée, Stéphane Buis. Merci encore.
Merci beaucoup à vous.